RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG pour les grandes gueules. Et en ce 1er mai, les GG sont là avec vous, bien sûr, au 32-16. Nous sommes là et en direct avec aujourd'hui dans les GG l'avocate Sandrine Pégan. Bonjour maître.
Bonjour à tous. Ah, petite chose, je suis très déçue. Parce qu'encore une fois, à chaque fois que je viens, je suis toujours déçue. C'est fou quand même.
Pourquoi?
En tout cas, en début d'émission. Mais je m'attendais à ce que vous nous offriez quand même un petit brin de muguet. Et je constate que finalement, c'est l'austérité jusque dans les traditions. Heureusement, de mes amis m'en a offert. Hein,
oui, bah, il y a des faux d'herge partout. Bien sûr.
Un brun muguet d'avocate de droite, bah bravo.
Nous, on arrivera à 6h du matin, il n'y a rien d'ouvert. Les vendeurs, ils ne sont pas encore sur le trottoir. Les fleuristes, je t'en parle même pas. C'est pas ouvert. Tiens, Bruno Poncé est avec nous aujourd'hui.
Bonjour à tous.
Notre ami cheminot de Vierzon. Bonjour Bruno.
Bonjour à toutes.
Et puis, nous sommes avec Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie.
Et lui aussi est déçu.
Pourquoi?
Parce qu'on devait recevoir Nicolas Dupont-Aignan. Et à la place, j'ai vu qu'il avait été cancel. Et on va probablement sur ordre de Bruxelles. Ça rime. Et à la place, on va recevoir un certain Attal,
un certain Gabi,
je ne connais pas.
Il a déjà vendu la mèche. Tout à l'heure, c'est l'ancien Premier ministre à 10h, Gabriel Attal, qui sera avec nous. C'est l'homme qui est au cœur de la polémique sur le 1er mai. Candidat potentiel à l'élection présidentielle, l'homme qui veut avoir une immigration en France à la mode canadienne avec un permis à points. Gabriel Attal sera avec nous tout à l'heure dans les GG, dans les grandes gueules. Mais puisqu'il nous évoquera le 1er mai, parlons-en dès maintenant. Avec vous surtout au 32-16, ce 1er mai aujourd'hui. Finalement, est-ce que vous préférez un 1er mai vraiment férié, un 1er mai de manifestation ou un 1er mai où on peut travailler? Donc 32-16 pour en parler dans les GG. Les habituelles manifestations de ce 1er mai, on sait aujourd'hui autour de quoi elles vont tourner. Elles vont tourner autour de ce débat initié par Gabriel Attal sur la possibilité de travailler dans ce jour qui est obligatoirement férié, chômé. On a plus de 300 manifestations qui sont prévues à travers toute la France. On aura sûrement un peu plus de 100 000 personnes. Alors le gouvernement a dit non à l'assouplissement. Vous savez, l'idée c'était de permettre davantage d'artisans de travailler, permettre aux boulangers, de permettre aux fleuristes surtout de pouvoir ouvrir. Donc du côté du gouvernement, on dit non, on revoit ça avec un projet de loi qui devrait entrer en vigueur avant le 1er mai 2027, à des discussions avec les partenaires sociaux. En attendant, le ministre du Travail a demandé aux inspecteurs de faire preuve, si vous voulez, de mansuétude, vu le contexte particulier du débat, c'est-à-dire de tous ceux qui vont aller ensuite avec le carnet de souche, si je puis dire, pour verbaliser, de dire, faites preuve de discernement, discutez, dialoguez. Donc ce 1er mai, finalement, franchement, vous préférez travailler ou préférez qu'il soit férié? Vous préférez travailler ou préférez manifester? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules. Puis-je donner la parole à Bruno Poncé en premier? Vous le comprendrez aisément, mon cher Bruno.
Le 1er mai, c'est quand même le seul férié qui est férié et chômé. Et c'est une tradition française. C'est
parti des États-Unis, hein, d'abord.
Ouais, d'une manifestation
qui ont dégénéré
à Chicago. La police avait tiré sur les manifestants et qui après est devenue une journée fériée pour tout le monde. Mais en fait, c'est pas que culturel, c'est aussi un jour pour commémorer toutes les luttes sociales qui ont existé. Moi, je suis toujours surpris de vouloir toujours venir sur le 1er mai comme si c'était quelque chose. En fait, j'ai l'impression que c'est un totem pour les capitalistes de dire je fais tomber le 1er mai, donc après ça veut dire allez hop, c'est l'ouverture à tout. On a vu dernièrement Lisnard qui était en train de faire semblant de broyer le code du travail. Enfin, en fait, il y a ce côté-là de dire bah si on fait tomber le 1er mai, de toute façon derrière on pourra tout péter. Bon, déjà tout est déjà à moitié vrillé en fait, hein, depuis les lois El Khomri, les lois de travail, et puis derrière tout ce qu'a fait Sarko, ce qu'a fait Macron. Moi, je vois pas l'intérêt aujourd'hui, sachant qu'en plus les gens, enfin tu vois, hier tout le monde était dans les supermarchés, les magasins, tout le monde faisait ses courses parce qu'aujourd'hui ils savent que tout est fermé. En fait,
les supérettes sont ouvertes.
Ouais, bah pas toutes en fait, hein, beaucoup sont fermées.
Les supérettes du quartier, elles sont ouvertes.
Bah, ouais,
les trains roulent.
Ah mais nous ça a toujours été en fait.
Les restaurants sont ouverts. Voilà, les hôtels sont ouverts.
Ouais, mais c'est parce que en fait l'industrie du tourisme elle a cette possibilité de le faire. En fin de compte, le seul truc, c'est que tu
la
vois.
La société a changé depuis 1880, on est
d'accord. On est d'accord. Mais ça n'empêche pas que les gens sont quand même attachés au fait de ne pas travailler le 1er mai. Et tu le vois, tu peux voir des gens. Le seul truc, c'est que beaucoup de gens pensent que s'ils travaillent le 1er mai, ils seront payés x2, x3, machin. Il y a très peu de boîtes qui le font. Et là, par exemple, tu vois, on a. Quand Attal a voulu faire sauter le verrou du 1er mai, des entreprises ont dit, bah, des boulangers et des fleuristes ont dit, ouais, je vais embaucher les gens. Enfin, je vais dire aux gens, vous allez pouvoir travailler. En fait, les gens se sont retrouvés.
Restons sur un 1er mai sacralisé. C'est voilà. Ce que tu dis, quoi.
Ouais, et puis surtout, je te dis, là, dernièrement, quand ils ont ouvert un peu les portes à travailler le 1er mai, en fait, les gens se sont retrouvés, ça n'a pas été du volontariat, les gens se sont retrouvés inscrits au planning sans leur consentement, sans qu'on leur demande leur avis. Donc, si c'est ça un peu le truc qu'on te dit tout le temps, oui, c'est un choix. Ben non, c'est pas un choix en fait, parce que les patrons
font
la même
chose. Maître Pégan, travailler ou fuiriez.
Déjà, ce que je comprends pas, c'est que par rapport à Bruno, ôte-moi d'un doute, t'es syndicaliste.
Je le suis plus, ouais. Ah, mais je l'étais. Ouais. Je l'étais.
Il reste dans l'âme.
Tu es syndiqué. Donc, ce qui veut dire que tu fais un peu figure d'exception, puisque pour toi, ça devrait être sacralisé. Et on est le 1er mai, t'es avec nous. Est-ce que t'es en mission, infiltration du patronat
ou c'est un peu ça, ouais.
Oui, c'est ça.
Disons que moi, je ne gagne pas ça SNCF, donc je viens faire des piges aux grandes gueules le 1er mai pour être payé 3x3 pour pouvoir partir en vacances en Argentine.
Jean-Loup m'a dit tout à l'heure qu'on était payé x8. Il faudrait savoir. Accorder un peu violon.
Il a peut-être un meilleur contrat. Moi, je sais pas.
Alors, qu'est-ce que tu en dis? Férié ou travailler?
Mais on travaille. Qu'est-ce qu'on fait là? Regardez, on est avec les auditeurs, on est avec vous tous, on est contents, on travaille. Nous restons des braves et on est le 1er mai. Ceux qui veulent travailler, travaillent. Bien sûr.
Tu veux donner la liberté?
Moi, je veux donner la liberté. Et à partir du moment où c'est sur la base du volontariat, bien sûr qu'il y aura après des patrons qui vont en profiter, qui vont sous couvert de mettre un peu la pression en disant, bon, si tu ne travailles pas le 1er mai, bah écoute, peut-être que le mois prochain, tu feras plus partie de l'effectif. Bien évidemment, ça va exister. Dans le contrat, ça ne le sera pas et ça sera toujours marqué sur la base du volontariat. Mais dans les faits, il y aura certainement quelques pressions. Mais ça restera un épiphénomène.
Jean-Loup Bonamy, ce 1er mai, alors, qu'est-ce qu'on en fait? On le garde férié ou on travaille?
Une petite précision historique neutre, pour être complet, c'est vrai que c'est parti des États-Unis.
Mais,
où il y a eu une répression, en effet, je crois, à l'époque, contre des anarchistes violentes, mais son institutionnalisation
Et là, certains vont avoir les oreilles qui saignent.
C'est passé, après les États-Unis, par une petite ville d'Auvergne, thermale,
du nom de Vichy,
qui en a fait la fête du travail. Mais je ne porte pas de jugement. Alors, moi.
Il y a 41, de préciser.
C'est-à-dire que, je suis d'accord avec les points de départ de Bruno, mais pas avec les conclusions qu'il en tire. Et moi, je trouve ça très bien qu'il y ait
le toujours du mal à conclure correctement.
Oui, c'est vrai. On l'a vu avec Karine Le Marchand.
Mais vous le laissez tranquille, ce Bruno.
Je trouve, très bien qu'il y ait le 1er mai, que ce soit férié, que ce soit la fête du travail, que ça commémore les luttes sociales. Il y a aucun problème avec ça. Moi, je suis ravi que le 1er mai soit férié. Mais je suis aussi ravi que ceux qui souhaitent travailler puissent le faire. Parce que ces dernières années, et même ces dernières décennies, avant 2025, c'est-à-dire jusqu'en 2024, il y avait en fait une tolérance. Et l'an dernier, on est revenu sur cette tolérance. Mais le monde ne s'est pas arrêté de tourner parce que dans les années 90, 2000, 2010, début des années 2020, il y avait une tolérance. Et donc, pour les fleuristes, les boulangers, d'autres professions, il y avait une tolérance. Ça ne portait absolument pas atteinte aux droits des travailleurs.
Mais c'est là,
ceux qui voulaient...
C'est hypocrite. Quand tu parles de tolérance...
Il y avait une tolérance.
Non, c'est
pourquoi
pas, elle
c'est
se dérange,
cette tolérance?
Non, c'est hypocrite. Parce qu'en fait, si les inspecteurs du travail vont voir des gens, c'est qu'ils ont été mandatés par leur patron qui les paye deux ou trois fois parce qu'ils travaillent un jour férié le 1er mai. Donc en fait, tu vois, je trouve que l'État est hyper hypocrite là-dessus en disant oui, machin, il faut faire une loi. Sauf que c'est eux qui envoient les inspecteurs du travail. C'est pas toi qui va dire à l'inspecteur du travail, mais regardez, mon boulanger, il est ouvert. Ben non. Par contre, l'État disait aux inspecteurs du travail d'y aller. D'ailleurs, l'année dernière, on avait fait le même débat. T'avais des boulangers qui expliquaient, moi je me suis fait contrôler, on m'a demandé de fermer ou de virer de dire à mes employés de dégager, que je reste tout seul. Donc c'est très hypocrite de dire le gouvernement veut faire des choses, sauf que c'est eux qui envoient les inspecteurs du travail. Donc c'est ça qui est quand même hyper.
Là, je suis bien d'accord que c'est hypocrite, mais.
C'est un peu schizophrène aussi.
Et surtout quand tu vois la situation économique et financière de la France. Tu vois, moi par exemple, j'entendais Madame Binet de la CGT. Bon, je suppose qu'elle est pour qu'il y ait des services publics qui fonctionnent, mais de manière générale, qui fonctionnent bien, que l'hôpital fonctionne bien et tout. Mais si tu veux que l'hôpital fonctionne bien, il faut qu'il y ait des rentrées fiscales, il faut qu'il y ait des gens qui payent des impôts, qui payent des charges. Et pour ça, il faut qu'il y ait de l'activité économique.
Il faut travailler.
Travailler.
Il y en a plein,
elle est pour le système de retraite par répartition. Si tu veux de la retraite par répartition, il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait de l'activité. Or, elle complique l'équation en mettant systématiquement, le 1er mai est un exemple parmi d'autres, des bâtons dans les roues de l'activité économique.
Mais pourquoi on ne travaille pas Noël alors? Pourquoi on travaille pas? Alors, Benoît, le boulanger travaille, ah, le charcutier. Mais...
Bah, pourquoi on a quand même plein de, t'as des restaurants qui sont ouverts, t'as des supérettes, t'as plein de choses qui sont ouvertes.
Pourquoi, pourquoi aujourd'hui on a, tu vois, le moi je te dis, c'est vraiment une espèce de faire péter un verrou avec le 1er mai pour dire, regardez, on a tout mis à plat. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de fériés, je ne les comprends pas.
Est-ce que tu devais réouvrir ton cabinet le 1er mai, toi?
Mais moi, sur, que vous soyez bien conscient d'une chose, je travaille 365 jours sur 365. Je veux dire, j'ai pas de samedi, oui, mais... j'ai pas de dimanche, j'ai pas de jour férié. Même ça m'est arrivé d'assister des clients en garde à vue ou même d'aller en audience le 1er janvier.
Bien sûr, mais donc, voyez, est-ce que tu pourrais imaginer ouvrir ton cabinet avec tes collaborateurs le 1er mai ou pas?
Alors, sur la base du volontariat, c'est vrai que, évidemment...
Parce que c'est ça la question, tu vois, parce que...
Ça m'aiderait, forcément.
Les tribunaux sont fermés, en plus.
Ça viendrait amoindrir la charge de travail. Maintenant, ça serait sur la base du volontariat. Et aujourd'hui, force est de constater que nos élèves avocats ou nos jeunes collaborateurs sont plutôt dans l'équilibre bien-être travail. Donc bah, non, ils ne voudraient pas travailler.
Ce qui est un peu logique,
c'est un peu logique. Je veux dire, quand tu embrasses ce métier, au bout d'un moment, tu ne fais pas ça comme un fonctionnaire.
Ah, mais ça, c'est toi qui vois ça, c'est ta vision à toi. Nous, on a ici Gant de Borde qui était venu, alors avant qu'il soit, il était venu, m'avait expliqué, il nous l'avait dit.
Ouais, mais
ça reste des métiers où tu peux être ouvert 365 jours. Et lui avait dit que cette affaire, il ne le ferait pas parce qu'il n'a pas vu grandir ses enfants, parce qu'il n'arrêtait pas de charbonner matin, midi et soir. Et qu'à un moment donné, bah, ça péjore. Tu ne peux pas demander à des jeunes.
Tu ne peux pas faire une vie de travail, c'est ce que tu dis.
Et tu ne peux pas demander à des jeunes qui ont vécu un Covid, qui a été un truc monstrueux pour tout le monde, mais que pour des jeunes, on leur a dit tu restes chez toi. Et d'un seul coup, leur dire bah ouais, mais ta vie perso, tu oublieras parce qu'en fait, le mieux maintenant, c'est de travailler. Ça, c'est un choix de vie. Si moi, je suis entré à SNCF, c'était pas pour gagner des ronds, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais choisi une vie différente que mes collègues d'usine.
Non, mais c'est heureux que tu le dises, c'est-à-dire avec un rythme de vie plus peinard qu'une profession libérale ou un salarié du privé.
C'est, par contre, c'est un choix de vie. Oui, c'est un choix de vie.
Intéressant d'entendre Bruno dire qu'à la SNCF, peut-être on bosse moins. Alors.
C'est pas qu'on bosse moins.
On a des horaires de travail.
C'est ce que tu dis.
Non, mais je dis pas ça. Moi, je bossais différemment que vous. Moi, je travaille en 3-8.
Ah, bah ça, c'est sûr.
C'est un aveu quand même.
Oui, mais c'est un aveu par rapport à. Si elle a dit qu'elle travaille 365 jours par an, Sandrine, moi, j'ai pas envie de travailler 365 jours par an. Et si moi, j'avais trouvé, j'étais plus rentré dans une boîte qui me donne. Moi, je suis entré SNCF en 3-8, en travaillant 3 dimanches sur 5. Je demande à tout le monde s'ils ont déjà travaillé un jour, un dimanche, ça fera un peu rigoler. 3 dimanches sur 5. Gagner 1100 balles.
Oui, sauf que
donc c'est comme ça.
Alors je t'explique. Mais j'ai pas vraiment le choix de travailler non-stop parce que moi, si je ne travaille pas, j'ai pas de salaire qui vient à la fin du mois et je dois payer mes collaborateurs, je dois payer mes charges, mes locaux.
Tu as ouvert ton cabinet. Tu pourrais être la collaboratrice de quelqu'un et n'a pas besoin d'avoir ouvert ton cabinet à ton propre.
Ah oui, mais sauf que en effet, ce n'est pas mon choix de vie. Donc, mais en attendant, je n'ai pas le choix.
Je
dois travailler.
Oui, on a Xavier de Haute-Garonne qui veut intervenir au 32-16. Bonjour, Xavier.
Salut les GG. Salut.
Alors aujourd'hui, travailler ou manifester? Travailler ou férié? Alors dites-moi.
Je travaille comme tous les jours fériés, hormis Noël et le 1er janvier. Sinon, tous les autres jours fériés, je les bosse.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Eh ben, j'ai plusieurs entreprises. Tu sais, je suis exploitant auto-école, j'ai caviste itinérant, élevage de chevaux, enfin voilà.
Oui, c'est vrai.
Le problème, c'est que même si je veux bosser aujourd'hui, je suis un peu amputé de mon chiffre d'affaires parce que, avec l'absence totale de transport, ni bus ni métro, j'ai des élèves qui ne peuvent pas venir. Donc là, typiquement, aujourd'hui, je perds 150 euros minimum de chiffre d'affaires dans la journée. Et donc ça, tu le reportes sur plusieurs fois dans l'année. Et ben, ça fait que c'est de la croissance en moins pour le pays. C'est des charges qui rentrent en moins. Moi, je comprends pas dans un pays où on est la liberté, où on est l'égalité et que chacun pourrait faire comme il veut en fonction de ses desiderata, de sa vie, de ses choix. Comme le disait Bruno, il a fait des choix, notre amie avocate aussi. Eh ben, je ne comprends pas qu'on ne laisse pas le libre arbitre à tout un chacun de pouvoir faire s'il a envie de bosser ou pas. Vous avez beaucoup de gens qui ont envie de faire du chiffre d'affaires pour X ou Y raison. Vous avez des gens qui préfèrent équilibrer, comme le disait notre amie avocate, travail, Sandrine, voilà, pardon, je parle de son prénom.
Merci, Xavier.
Vie perso. C'est un libre choix. Moi, je n'ai rien contre les gens qui veulent rester en jour férié, qui veulent avoir un week-end un peu prolongé. Pas de souci avec ça. Alors, on nous dit toujours, oui, mais la France, on a moins de jours fériés que les autres. Oui, mais quand vous prenez...
On travaille aussi 110 heures de moins que les autres pays, hein, que nos voisins, si vous voulez. Donc aujourd'hui, ça rejoint ce que disait Jean-Loup.
On s'étonne.
On a besoin d'activité, de générer de l'activité.
Parce que, en fait, vous avez les vacances. On dit toujours, en France, il y a 5 semaines de vacances. Mais si vous prenez les conventions collectives, il y a énormément de secteurs d'activité où vous avez largement plus que 5 semaines de vacances. Et ça aussi, il faudrait le prendre en considération. Donc
travaillons plus, Xavier, c'est ce que vous dites.
Ben oui, et puis surtout que, très honnêtement, je comprends bien que la vie ne soit pas qu'autour du pognon, Mais quand même, si on a envie d'avoir des projets, de faire des choses, il faut laisser le choix aux gens de pouvoir le faire. Et puis c'est quand on est jeune qu'on peut faire du fric, c'est pas quand on est vieux, quoi.
Xavier, on a justement Thomas qui est du côté du Val d'Oise qui va en parler avec nous, qui est employé commercial. Bonjour Thomas, bienvenue. Oui, oui. Vous avez entendu Xavier dit donnons la liberté de pouvoir travailler. Vous êtes sur le même raisonnement ou pas, où il faut garder des jours fériés sacrés, sacraliser les droits acquis, dites-moi.
Ah non, je suis entièrement d'accord avec lui. Comme je disais au standard, moi, depuis que j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans après le lycée, j'ai toujours eu le choix dans mes emplois de pouvoir travailler le jour férié. J'ai pris l'habitude de le faire. Je travaille les jours fériés, les dimanches, le lendemain du le premier jour de l'année, le 1er janvier. J'ai toujours eu le choix. Donc, pour moi, ça n'a pas été sacralisé. On doit avoir le choix. Quand j'entends M. Poncet qui dit encore oui, la plupart des gens veulent que ce soit comme ça. Ben non, je suis pas d'accord. C'est ce qu'ils pensent.
Vous n'êtes pas la plupart des gens. Bah, vous n'êtes pas la plupart des gens. Moi, ce matin, j'ai vu un sondage sur une autre chaîne. Il disait 51-49. On est quand même à une moitié.
Oui, mais avec les sondages, on peut dire ce qu'on veut, monsieur. À un moment donné, ça me fait rire.
Oui, mais là, vous êtes en train de
faire les municipales et les présidentielles.
Ouais, mais moi, j'entends ce que vous dites, mais ça me fait rire.
À un moment donné, il faut juste regarder la réalité en face. Les gens, ils doivent avoir le choix. Moi, comme je dis au standard aussi, quand j'entendais hier M. Guedes parler de ça, du jour férié, ça me rendait déjà un peu fou. La gauche, il a l'impression qu'ils ont le monopole de tout ce qui va bien dans le pays, mais ils font jamais ce qu'il faut pour que ça aille bien. Donc, laissez aux gens le choix d'avoir le jour férié. Et s'ils veulent travailler, ils travaillent. S'ils ne veulent pas, c'est pas grave. On va pas leur taper dessus. Alors, moi, j'ai jamais eu de patron qui m'a imposé quoi que ce soit et j'ai jamais eu de problème en disant non à vouloir ne pas travailler un jour férié.
Ouais, toi, moi, je suis d'accord avec vous, mais on a déjà dévoyé les dimanches. Regardez, moi, j'habite en région à Paris, puis en région parisienne maintenant. En fait, le dimanche, ils ont ouvert, il y a plein de magasins, je peux les citer, Monoprix, Franprix, qui sont ouverts. Or, les employés ne voulaient pas que ça s'ouvre. Et ben, le patron a trouvé un moyen, c'est qu'en fait, les magasins, les Monoprix sont ouverts le dimanche après-midi. Mais ce sont les agents de sécurité de boîtes privées qui tiennent un peu les caisses et tout.
Et encore, en fait, même pas, ce sont des caisses enregistreuses, tu sais, les caisses automatiques.
Mais t'as quand même le mec qui, quand t'as un problème, il vient voir. Donc en fait, ça veut dire qu'on a dévoyé le fait de travailler le dimanche en disant, les gens, bien sûr que les gens ont le choix, sauf qu'on va demander à d'autres employés qui sont d'une société privée de faire un taf que les autres veulent pas faire et surtout de pas être payés plus.
Ne t'inquiète
pas. Ça reste une escroquerie.
Bien sûr, mais ne t'inquiète pas pour ces entreprises. Elles verront que si jamais le dimanche, elles font pas suffisamment de chiffres, elles sont pas idiotes, elles fermeront si tu veux.
Donc c'est pour ça que
le commerçant, il s'adapte. Regarde, j'ai ouvert. J'ai fait du chiffre, c'est intéressant. J'ai ouvert, j'ai pas fait de chiffre, je ferme. Voilà, Xavier et Thomas.
Là où il avait raison, c'est un sujet. C'est qu'en fait, si tu ne veux pas qu'il y ait de chiffre d'affaires le 1er mai et que tu veux, par exemple, si par exemple toi ou comme moi, on dit le 1er mai, moi je ne veux pas travailler parce que moi je suis férié, j'aime les fériés, machin. Ok. Mais moi, dans ces cas-là, je vais pas dans les commerces, je vais dans les trains. Parce que moi, j'ai travaillé dans les trains. Aujourd'hui, je prends un train tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé dans les trains. Moi, j'ai travaillé tous les jours fériés de l'année. J'ai travaillé à Noël, c'est comme ça. Et c'était dans mon contrat et j'étais dans mon roulement. J'ai jamais rien dit. Et si je voulais un jour férié, je posais. Mais par contre, quelqu'un qui dit, moi, je suis pour les fériés, mais qui va dans un commerce, un jour férié, ou quelqu'un qui dit, moi, je suis contre le travail le dimanche, mais qui va dans le commerce le dimanche, à un moment donné, c'est plus que l'hypocrisie. En fait, c'est des trucs de mytho. Moi,
ceux qui vont manifester cet après-midi contre le 1er mai, il y a un moment, ils vont s'asseoir à la terrasse d'un restaurant.
Ils vont être servis par des gens qui travaillent.
Certains vont les défiler du 1er mai vont avoir pris les trains que tu vas faire rouler pour venir. Ils vont peut-être même avoir pris un avion pour venir à Paris.
Je vois que l'agent du NKVD Poncet va aller fliquer va aller suivre ceux qui se disent pour le 1er mai chômé pour vérifier qu'ils n'aillent pas boire un verre en terrasse après la manif.
Je parle la même hypocrisie, tu sais, des gens qui te parlent de l'emploi en France et qui commandent sur Amazon toute la journée.
Xavier et Thomas, merci d'avoir été avec nous. 1er mai, vous préférez travailler ou manifester, travailler ou férier? C'est la question que l'on vous a posée.
Alors,
on va voir ce que vous en dites. Attention, est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est tranché? Travailler à 78%.
Le sondage de Bruno, là, que tu as vu ce matin, à mon avis, pas très fiable.
Mais les gens sont tous devant leur télé ou en train d'écouter à la radio, donc ils ne travaillent pas.
Mais ils sont sur leur portable.
Voilà, ouais, sur leur portable.
Peut-être pour aller manifester.
Donc ça veut dire que nous écouter au travail.
Alors justement, le corollaire, et c'est ce que disait Xavier et Thomas il y a un instant, c'est l'activité, c'est gagner de l'argent. Justement, l'essence qui augmente, le gaz, plus 14% aujourd'hui. Très franchement, vous nous le dites, est-ce que vous vous en sortez en ce moment? Oui ou non? 32-16, restez avec les GG, on vous attend, il est 9h20. Nous sommes en direct sur RMC, la radio, et RMC Story. Story, la télé, le canal 23 de la TNT.
Ah, d'accord.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Allez, Jean-Michel, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Vous venez prendre la parole avec les grandes gueules au 32-16. Il est 9h25. Je vous rappelle que tout à l'heure, à 10h, on aura Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui sera avec nous pour reparler du 1er mai, reparler de sa candidature à l'élection présidentielle, reparler de cette immigration choisie à la manière canadienne qu'il veut mettre en place en France. En attendant, parlons de notre porte-monnaie, parlons de notre portefeuille, parlons de notre pouvoir d'achat et des hausses du moment. Là, en ce moment, ça a un coût hein, quand on regarde. C'est le temps des hausses. Un prix du gaz plus cher de 15,4% en moyenne à partir d'aujourd'hui. Augmentation qui est due à la crise économique des énergies, c'est la guerre au Moyen-Orient. Les personnes concernées sont les ménages dont les offres sont indexées en fait hein, sur le prix de repère de vente du gaz. On a l'essence qui n'a jamais été aussi chère. Avec Total, en fait, c'est Total aujourd'hui qui dit bah écoutez, grâce à nous, vous allez peut-être pouvoir vous en sortir un petit peu plus, puisque ils font leur double opération, c'est capé jusqu'à la fin de la crise. Et pour les ponts du 1er mai, les ponts du 8 mai, les ponts du 14, eh bien, c'est abaissé à 2,09€, notamment pour le diesel. Voilà. Est-ce que, très franchement, dites-moi, est-ce que vous vous en sortez en ce moment? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec ces hausses? Qu'est-ce qu'on peut faire? 32-16 pour en discuter avec les GG. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Loup Bonamy?
Bah, moi, je suis un peu triste de voir que les gens sont pris à la gorge, doivent compter, vraiment sont à l'euro près. Et parce qu'en fait, le problème, plus que les hausses, je reviendrai après sur les hausses, mais le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à vivre de leur travail. Voilà. C'est ça la réalité du problème français. Pour des raisons d'ailleurs qu'on pourrait expliquer. Mais donc, je vois que la France, ben, c'est un pays où les gens n'arrivent pas à vivre de leur travail et où la population est asphyxiée. Et concernant les hausses, moi, j'ai quand même énormément de solutions à proposer. Que j'ai déjà proposé.
Une émission qui va nous emmener vers Bruxelles, je pense.
Eh ben oui, mais comme bon, on se répète un peu, moi, j'ai encore d'autres choses à te proposer.
Si.
Par exemple, quand on avait reçu le spécialiste du pétrole,
Monsieur Chilansky.
Voilà, Monsieur Chilansky. Et donc, justement, il y avait la question de relancer l'exploration sur le territoire français du pétrole de schiste et du gaz de schiste. C'était une possibilité. On n'en parle plus du tout. C'est tabou. Alors là, c'est tabou. Également, peut-être qu'on pourrait acheter du gaz russe. Je ne sais pas. Il y a un pays, il produit.
Bon, je pense qu'il doit arriver par d'autres voies.
Oui, mais on en achète. Quand même.
Voilà, les Allemands,
en fait,
via des intermédiaires.
Voilà, mais donc ça fait monter le coût. Il y a la question, justement, tu disais, ça pénalise surtout les ménages dont le prix est indexé sur le cours du gaz. Et ben, justement, on pourrait peut-être arrêter avec tout ce système d'intermédiaires qui, en fait, a été une catastrophe, qui est une véritable escroquerie légale, et revenir au système d'avant avec un seul fournisseur, pas d'intermédiaire et un prix unique national. On pourrait aussi, alors là c'est toi qui m'as lancé, sortir du marché européen de l'électricité. On pourrait également, sur le prix du pétrole, supprimer la part, enfin sur le prix de l'essence, pardon, la part du prix de l'essence qui sert à financer les éoliennes. Mmh. Tu vois, il y a plein de choses à faire.
C'est la fameuse C2E, la contribution écologique.
Ouais. Voilà, il n'y a pas de raison que quand tu ailles à la pompe, ça serve à payer des éoliennes alors que par ailleurs on a le nucléaire. Donc, tu vois, il y a plein de solutions.
Je regardais, il y a trois taxes sur l'électricité et trois taxes sur le gaz. La contribution tarifaire d'acheminement, la CTA qui est à 15%, l'assise sur l'électricité, alors elle est à 0,03%, et puis là-dessus, vous rajoutez la TVA qui est de 20%. Et puis bon, quand tu parles de l'essence, t'es à 60%. Alors est-ce que vous vous en sortez face à ces hausses? 32-16 pour en parler avec les GG, Sandrine et Bruno. Sandrine.
Alors moi, je suis pas économiste et franchement, à chaque fois, on nous parle de chiffres, inflation plus 2,2%, augmentation de l'énergie à plus 50%, l'augmentation du gaz à 15%. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a juste une paupérisation de la France et que t'as des gens qui se lèvent tous les matins, qui bossent comme des tarés, qui travaillent 50, 60 heures par semaine et qui, comme tu disais tout à l'heure, Jean-Loup, on ne termine pas le mois. Chaque fin de mois est un miracle. Tu te dis, mais merde, pardon pour cette expression un peu cavalière, mais t'as même pas le temps de respirer que déjà t'es prélevé à la fin du mois. Donc la question que tu me poses, c'est est-ce qu'on s'en sort? Non, on s'en sort pas. On s'en sort pas et à chaque fois, on doit toujours tirer la langue. On doit être en train de quémander à un moment donné que l'État veuille bien bouger un peu ses fesses pour faire quelque chose pour les Français. Ça devient insupportable.
Bruno,
moi j'entends. Après, je pense qu'il y a deux France. parce qu'hier il y avait 1000 km de bouchons. Donc je pense que le prix d'essence ne doit pas impacter tout le monde. Pour qu'il y ait 1000 km de bouchons la veille d'un 1er mai, je pense que ça doit aller pour certains.
C'est des gens qui vont aussi voir leur famille, qui ont fait. Des fois, on fait des demi-pleins aussi, hein, ouais, pour de faire façon, des distances courtes. Hein.
Et puis rappelle-toi que la gare de Lyon est fermée, donc ils sont obligés de prendre leur voiture à cause de vous.
Faut bien, pas à cause de nous, c'est grâce à nous, parce que nous, on fait des travaux pour que notre réseau soit sûr. Il faut savoir ce qu'on veut. Après, il y a un sujet, c'est que Sandrine l'a dit, en fait, aujourd'hui, le vrai problème, c'est comment tu finis pour vivre, parce qu'aujourd'hui, tu ne vis plus de ton travail pour une grande partie des Français. Moi, je me considère pas là-dedans. Je pense que nous, autour de la table, on a quand même encore cette liberté-là. Beaucoup, par contre,
tu as la langue, hein, parfois. Hein.
Ouais. Moi, tu vois, par exemple, sur le gaz, moi, je viens de me prendre une régule là, avec le gaz de France. Je viens de me prendre une régule de 200 balles. Je leur avais demandé, parce que dernière, j'étais passé de 110 balles de gaz à 180 euros de prélèvement, parce que j'avais plus le droit au tarif un petit peu préférentiel. Je leur dis non, c'est 180 balles par mois, on va se détendre un peu. Donc là, j'ai une régule de 200 balles. Je vois que ça augmente encore. Moi, je suis en train de réfléchir à me dire, je vais peut-être passer l'électricité. Mais on va pas être naïf. Si demain, par exemple, tout le monde passe en voiture électrique, l'État, toutes les taxes qu'ils prennent sur le gaz et l'essence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les récupérer ailleurs. Donc, je pense qu'ils vont finir par taxer l'électricité aussi. Donc, en fait, on va pas être naïf, mais le vrai sujet, c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu touches ton salaire, tu touches 46% de ce qu'on doit donner, ton patron aurait dû te donner. Où va cet argent dans l'État? Et pourquoi aujourd'hui, en plus, en face de ça,
t'as, l'argent,
t'as pas
l'argent,
de service public à la hauteur, hein, excuse-moi, là. Hein.
Ah, bah, oui, mais, c'est de la cotisation. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait où il va.
Oui, mais non, on sait pas où il va.
Il va dans les retraites, il va dans les aides sociales, il va dans les services publics.
Bah, non, mais en fait, non. Non, parce qu'aujourd'hui, tu vois bien que moi, je sais pas où il va.
C'est ce que la France Insoumise appelle le salaire différé.
Oui, très différé.
Très différé.
Mais le problème différé, c'est qu'aujourd'hui, tu vois bien que le train de vie de l'État jamais été aussi gros. Et qu'en fin de compte, l'argent n'arrive pas dans les services publics. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, il y a plus de policiers dans les rues, il y a plus de profs devant les gamins, il y a de moins en moins de profs. Les lycées sont de plus en plus vétustes. Tu dois en voir certains aussi. Ben,
je vais répondre à Bruno parce que
je vous en prie. Ben, Bruno Poncé, Jean-Loup Bonamy, Bruno Poncé. Bah,
enchanté. Donc
sur un ring. Alain, c'est l'arbitre. Moi, je suis le coach.
Non, mais certains auditeurs vont un peu me détester.
Mais non.
Mais les Français, j'ai dit que vraiment j'étais inquiet de voir cette situation de paupérisation avec des Français qui n'arrivent pas à finir la fin du mois. En fait, il y a une partie des Français qui, sans le savoir, sans le vouloir, sont un peu responsables de cette situation. Ce que tu ne peux pas avoir dans la situation où on est actuellement, à la fois des bons salaires nets à la fin du mois, ce que je souhaite, moi je suis pour, et la retraite à 60 ou 62 ans. Et c'est normal, le budget de l'éducation nationale, tu me dis, il n'y a plus d'argent pour les gamins, devant les gamins, dans les lycées, dans les collèges. Bah oui, t'as raison et je le dénonce, mais parce qu'en fait, il y a toute une partie du budget de l'éducation nationale, c'est la retraite des enseignants qui sont partis et qui sont actuellement retraités et qui ont pris leur retraite à 60 ou 62 ans. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu peux pas à la fois avoir des bâtiments qui tiennent le coup, des profs bien payés, des gens qui travaillent à l'ééducation nationale et qui arrivent à finir le mois sans difficulté, et en même temps partir à la retraite à 60 ou 62 ans. Faut choisir. Tu peux pas avoir à la fois des salaires d'Américains et partir à la retraite à 45 ans.
Voilà. Corinne veut en discuter avec les GG. Corinne, bonjour.
Oui, bonjour les GG.
Est-ce que vous en sortez en ce moment, alors, justement?
Alors, non. Et là, je suis effarée de ce que je viens d'entendre de monsieur Dierce, parce que...
Jean-Loup Bonamy.
C'est vrai qu'ils se ressemblent.
Pardon. Excusez-moi. Non, mais parce qu'en plus, il parlait des profs riches et tout. Mon compagnon est prof.
Je suis prof aussi.
Bah ouais, non mais enfin. Bah,
et j'en ai marre qu'une partie du budget considérable de l'éducation nationale serve à payer la retraite de gens partis à 60 ans.
Attendez, laissez parler Corinne.
Qu'est-ce qu'on y peut? En fait, là, vous êtes en train de en fait, c'est parler dans le vide, parce qu'en fait, c'est acté comme ça. C'est comme les boomers, on en parle, ça sert strictement à rien. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tous dans la merde, qu'on soit prof, qu'on soit salarié. Moi, je suis au chômage, malheureusement, parce que, en fait, c'est pareil, quand j'entends tout le monde dire, il faut travailler, les gens travaillent pas assez. Moi, j'ai 53 ans, je trouve pas de travail. Enfin, c'est une vraie galère, et je suis pas la seule. Mais, évidemment, tout le monde est en galère.
Ouais, la tranche d'âge,
Oui. Ça, c'est un autre sujet.
Mais c'est vrai, Corinne, vous avez raison. J'ai des amis pareils qui sont dans la même situation que vous, qui ont un peu plus de 50 ans et qui ont beaucoup de mal à trouver
Attendez, laissez parler, Corinne. Allez-y.
Et du coup, effectivement, on est tous dans la galère et puis l'État ne fait rien. Alors, il ne fait rien pour nous aider. Alors, par rapport aux taxes, bloquer les taxes, pas bloquer les taxes, en tout cas, il fait rien. Et alors, la première chose qu'il ne fait pas...
C'est Total qui fait.
Tout autour de cette table, il y a des auto-entrepreneurs, enfin, il y a des gens qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont qui ont leur entreprise. Les premiers, quand il y a une crise, à baisser leur salaire, voire à ne pas prendre de salaire, c'est le patron. On est d'accord ou pas?
On est bien d'accord. Et parfois même, Corinne, vous avez raison, on va même plus loin. Parfois, on ne se paye pas pour que justement nos collaborateurs puissent être, rémunérés.
On est d'accord. Et là, l'État, je ne sais pas, je ne les ai pas du tout entendus dire qu'ils allaient peut-être baisser leur. Enfin, moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Hein. Je suis désolée parce que là-dessus, je suis assez monomaniaque. À un moment, il y en a marre de nous demander à nous de faire des efforts et eux n'en font absolument jamais. Là, on est dans une crise hyper grave et qui s'aggrave de jour en jour. Et je les écoute à la télé, là, tous. Et il n'y en a aucun qui va dire, bon, là, en fait, les salaires...
Qu'est-ce que vous voudriez dire à Gabriel Attal qui sera avec nous tout à l'heure à 10h?
Alors, Gabriel Attal, je vais vous dire
Monsieur Tatal.
J'habite à Bayonne et je l'ai croisé donc la semaine dernière à la foire au jambon. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler parce que ce n'était pas le moment, mais j'ai demandé à... En fait, on doit... Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Là, en fait, plus j'écoute son programme et plus, en fait, ça m'agace. Donc, en fait, ce que j'aurais envie de lui dire, c'est que, parce que j'ai écouté, là, qu'il disait qu'en fait, ils sont toujours en train de nous montrer du doigt en disant, oui, les Français, ils travaillent 110 heures de moins, si je dis pas de bêtises. Hein,
oui, c'est ça.
C'est ce qu'ils disent, ouais.
En fait, il y a un moment, j'aimerais bien que nos élus, lui, il est plus élu, mais enfin, ça a été notre premier ministre, qu'ils arrêtent de nous montrer du doigt tout le temps.
Ça, c'est une réalité. C'est une réalité des chiffres. Aujourd'hui, si vous voulez générer de l'activité, il faut quand même travailler
parce
plus.
Que moi,
c'est pas
solution.
En réduisant le gâteau, c'est en l'augmentant.
Il faut faire plus d'emplois aussi. Il y a un problème d'emploi.
Oui, mais justement, pour ça, il faut travailler
moi,
plus.
Moi, j'ai une solution pour
aussi
avoir plus d'emplois.
Oui, sauf qu'après, t'as tout le système qui te reprend tout ce que tu gagnes.
Corinne, quand t'as expliqué qu'il y a 53 ans, t'as pas de boulot.
Alors, attendez, j'ai Pierre qui est commerçant. Corinne, reste avec nous. Pierre qui est poissonnier du côté de la Garenne-Colombes, qu'on connaît bien. Bonjour, Pierre.
Quelle belle vie.
Bonjour, l'équipe. Bonjour.
Vous vous en sortez, vous, en ce moment, ou pas, le commerçant?
Pas du tout. C'est devient difficile pour nous, nos patrons, pour moi perso. Moi, je vis seul, je gagne 2000 euros, je suis à découvert de 1300, 1400 euros, on enlève mes prélèvements, c'est décalé pour l'autre mois, je m'en sors plus, je suis obligé de faire une journée de travail au black, je dis franchement, j'ai pas honte, et avec cet argent-là, je gagne 150 euros avec ce black, et je travaille la semaine avec.
Combien vous faites au total au black, Pierre?
150.
Par mois?
Oui. Non, par jour.
Non, par semaine.
Par jour. Par semaine, oui.
Et j'ai un lundi, mardi où je pourrais travailler dans l'intérim poisson. Il n'y a pas de mission en ce moment. Et ça devient très dur. J'ai deux enfants. Je ne fais plus aucune sortie, plus rien. Tout a augmenté. Et en parlant d'Attal, j'étais en train de parler d'Attal. Il n'y a pas que lui, puisqu'il est au gouvernement. Je ne crois plus à aucun politicien. Ils ont qu'à baisser des taxes pendant six mois. Au moins pour nous permettre de nous aider tous. Après, ils peuvent le remettre s'ils veulent. Mais là, ça devient difficile. Maintenant, le gaz. Moi, je suis au gaz aussi. Je m'en sors plus.
Vous avez des factures de combien, là?
J'ai des factures de... Alors, j'ai 160 euros d'EDF.
Ouais, c'est ça.
Et là, ça va augmenter encore. Et moi, j'en peux plus. Et moi, le 1er mai, je travaille. Là, aujourd'hui, je travaille. J'ai besoin de travailler. Je n'ai pas de choix. Je suis payé double. Et même si je n'étais pas payé double, j'irai travailler quand même pour mon patron parce qu'il a besoin de s'en sortir.
Ah, on en est là.
Lui qui donne mon boulot. Si je n'ai pas lui, je n'ai pas de travail. Ouais. Et là, nous, les artisans, on est dans le gouffre.
Pierre comme Corinne aujourd'hui, qui sont charrettes, comme on dit, le mot de la fin.
Alors, c'est terrible d'entendre ce témoignage, et je tiens à dire que des solutions existent et que j'en ai proposé. Et
tu lui proposeras Gabriel Attal.
Voilà notre auditeur, il nous dit le prix du gaz. Gaz russe, gaz de schiste, enfin, il y a plein de solutions.
Non, mais c'est comme les candidats à la présidentielle, ils font que faire des programmes prévisionnels, et puis finalement,
pour Corinne, dont le compagnon est enseignant, j'ai aussi une solution qui n'est pas parlée dans le vide, c'est on augmente le salaire net de son compagnon, et son compagnon, il part en retraite un peu plus tard à 68 ans. Voilà une solution. Et comme ça, les fins de mois sont moins difficiles.
Merci à Corinne, merci à Pierre. Dans les autres pays, c'est 68 ans. Restez à l'écoute pour Gabriel Attal.
Dans les autres pays, c'est comme ça.
L'ancien Premier ministre, est-ce que vous pensez vous en sortir? Est-ce que vous allez vous en sortir? Question posée sur les réseaux sociaux. Je pense que Corinne et Pierre ont donné le sentiment général. C'est un non à quasiment 68%. Allez, dans un instant, le 11 on s'en fout pas. Et à 10h tout à l'heure, Gabriel Attal avec nous.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Moins le quart avec les GG, avec les Grandes Gueules, avec Bruno Poncet, avec Jean-Loup Bonamy, avec Sandrine Pégan. 10h moins le quart sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. C'est l'heure du On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
RMC.
Alors, voilà, c'est ça. Alain, qu'est-ce que c'est?
L'hymne niçois, les amis. La vie ou belle à Nice.
Moi, j'ai eu le droit à la chanson d'Alain en live, rappelez-vous, à Nice. Il l'a chantée en live.
Bon, les GG, pourquoi l'hymne ne soit parce qu'Anis, un adjoint d'Éric Ciotti, le maire, hein, veut remplacer le célèbre hashtag géant I love Nice qui surplombe la promenade des Anglais. Vous savez, ces structures devant lesquelles les touristes posent et qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Remplacé par un j'aime Nice géant. On oublie l'anglais. L'idée de l'adjoint à la culture de la ville qui souhaite redonner sa place à la langue française. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Sandrine?
On s'en fout complètement.
Bruno?
Pas du tout, on s'en fout pas du tout.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Jean-Loup?
Eh bien, bravo à cet élu qui défend notre langue, notre culture, notre identité. Il y a un véritable problème avec justement les anglicismes. Il y a une soumission à l'impérialisme anglo-saxon qui est absolument déplorable. Et on parle souvent d'identité, d'intégration. Mais comment tu veux demander aux gens de s'intégrer si toi-même tu ne défends pas ta propre langue? Donc voilà, je vais le dire un peu crûment, l'intégration, c'est pas juste pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Et c'est donc y compris défendre notre langue chez nous. Donc c'est très bien, bravo à lui.
Mais c'est un phénomène et une mode mondiale.
Rien à foutre.
Structure.
Je crois que Anaïs a tout dit, ça s'appelle la promenade des Anglais. Voilà, c'est tout. À Nice, je veux dire, quand tu bades là-bas, ça parle anglais. Donc en fait, c'est pas que pour les Niçois ou les Français, les touristes comme moi, parce que le I love Nice est surtout pour les touristes qui arrivent et qui voient ça et qui comprennent un peu le langage.
Mais
le...
tu es un laquais de l'impérialisme anglo-saxon.
Bien sûr. Alors moi, je vais te dire un truc, et je suis trumpiste, même pour tout te dire. Mais en fait, tu vois, l'histoire...
C'est Guevara que tu assassines.
Il plaisante.
Et là, c'est ça, et moi, je comprends pas. Alors, peut-être que l'adjoint de Ciotti, qui a l'air d'être une lumière, va peut-être nous faire après la promenade des Français, plutôt que la promenade des Anglais, en fait.
Non, mais ça
non, mais la promenade des Anglais, son nom est en français.
Non, mais à la limite, s'ils veulent l'enlever, pourquoi pas? Ça va coûter un petit peu d'argent au moment où on fait des économies. Moi, je trouve que c'est pas très raccord avec ce qu'ils veulent faire. Le I love Nice, effectivement, c'est dans toutes les villes du monde, il y est. Ouais, si à ce moment-là ils veulent l'enlever plutôt que de le mettre en français, les amis, mettez Nice à ce moment-là, le hashtag Nice, Nice2SA. Mais sinon, laissez le I love Nice. On vient du monde entier pour faire la photo avec le I love Nice et derrière la promenade des Anglais.
Et puis c'est universel. Quand on dit I love you, c'est bien universel. Tout le monde comprend.
Oui, mais c'est pas du tout universel.
Et on a.
Il dit jamais I love you. Il dit je t'aime.
Mais c'est pas du tout universel. C'est américain en fait. C'est la domination culturelle des États-Unis.
Jean-Loup, tu vis dans quel monde? Tout le monde le dit.
Le verbe aimer, tout le monde le connaît dans le monde entier.
C'est ça. Bon, les GG. Non mais on a peut-être d'autres priorités quand même.
Que d'enlever le.
Oui pardon. Bah oui mais quand même.
On respecte.
On s'en fout du sujet et puis après réagir à ce que dit Jean-Loup.
Vous savez, femme varie. Anaïs, femme varie.
Ça c'est sûr.
Dominique de Villepin, les GG, aurait reçu en cadeau, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, deux statuettes d'une valeur totale de 125 000 euros par l'intermédiaire du lobbyiste Robert Bourgi. C'est ce que révèle l'émission Complément d'enquête sur France 2. Est-ce qu'on s'en fout pas, Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Sandrine?
Donc pour avoir la parole, il faut dire qu'on s'en fout pas.
Ah bah oui.
On s'en fout pas.
Bruno?
On s'en fout pas du tout.
Alors Robert Bourgi, la figure de la France-Afrique, mais aussi l'homme associé à l'affaire des costumes de François Fillon, affirme avoir fait parvenir à Dominique de Villepin ces deux cadeaux offerts à l'époque par le président du Burkina Faso et par un homme d'affaires italien. L'ancien Premier ministre lui explique qu'il n'était pas au courant de leur provenance et se dit prêt même à les rendre. Pour rappel, les ministres ont pour principe interdiction de recevoir des cadeaux de plus de 150 euros dans le cadre de leur mission, comme n'importe quel agent public d'ailleurs. Jean-Loup?
Eh bien, je ne m'en fous pas et j'ai envie de défendre Dominique de Villepin. Je rappelle que Dominique de Villepin était ministre des Affaires étrangères en 2002-2003, que ces deux statuettes n'ont absolument pas coûté un seul centime aux contribuables français. C'est pas l'argent des Français. Et que, en plus, il dit qu'il est prêt éventuellement à les rendre. Donc, je pense... je ne sais pas, à Bourgi ou au Burkina. Et donc, je ne vois pas où est le problème. Je pense qu'en fait, aujourd'hui... La voix de Dominique de Villepin dérange sur certains sujets et donc on vient lui chercher des poux et lui trouver des affaires, mais des affaires qui, excusez-moi, sont grotesques parce qu'encore une fois, c'est pas l'argent des Français. Donc voilà, il y a des liens, on le sait, avec les gouvernements africains, la France-Afrique, voilà. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas et je trouve
ça
que...
Ça ne dérange pas qu'il y a quelqu'un accepte des cadeaux d'un dirigeant africain?
Eh bien non, ça ne me dérange pas. Et parce que c'est pas mon argent, c'est pas l'argent des Français, c'est pas l'argent de la France. À une époque où on parle de faire des économies, là, ça n'a pas coûté un seul centime, c'était il y a 23 ans.
C'est pas une question de ça, coûter de l'argent ou pas, c'est que derrière, qu'est-ce que... En échange des statuts...
Oui, non, mais j'ai bien compris, mais on vient parce que la voix de Dominique de Villepin dérange.
Donc c'est une opération boule puante.
Mais bien sûr, c'est une opération, comme il y a eu quelques semaines sur Rima Hassan, comme il y a eu quelques années sur François Fillon. Dès qu'une voix dérange, à droite ou à gauche, sur un sujet ou un autre, ah, tac, on trouve des affaires.
Bruno?
Moi, je trouve qu'il aurait dû faire comme son mentor. Il aurait dû mettre ça au musée du Quai Branly. Parce qu'au départ, le Quai Branly, c'était les cadeaux qu'avait reçu Chirac pendant ses mandats, tu vois. Et je pense que ça aurait été plus intelligent de sa part. Le problème de Villepin aujourd'hui, c'est qu'à force de se montrer en chevalier blanc pour tout le monde et de donner des leçons à tout le monde, bah, à un moment donné, t'as le retour de bâton. Et ça, c'est peut-être que le début. Je me rappelle d'un moment donné qu'on expliquait que Villepin avait peut-être des accointances avec certains états du Golfe, dans lequel il faisait des conférences et que derrière, peut-être qu'il faisait du lobbying. Donc, à un moment donné, malheureusement, c'est comme tout, hein. Des fois, le boomerang revient plus vite que prévu. Et Jean-Loup vient de le découvrir, mais la politique, c'est sale. Et malheureusement, dès que tu t'exposes, tu prends un coup de poignard dans le dos. Le premier vient d'arriver, je pense qu'il y en aura d'autres.
Sandrine, ça vaut quoi d'ailleurs ce genre d'accusation de la part d'un
On a vu ce que ça a donné pour Fillon. Finalement, il a perdu la présidentielle, bon, il a dû se retirer. Moi, c'est ce qui me gêne, c'est ce personnage-là, Monsieur Bourgi. Oh, oui. Voilà, le fait qu'à chaque fois, ce personnage sulfureux vienne mettre un petit peu son grain de sel dans les présidentielles. Mais en attendant, il soulève aussi quelque chose de très important, je trouve, parce que à partir du moment où les personnages publics reçoivent des cadeaux de ces personnes-là qui ont de l'influence, comme tu disais tout à l'heure, très justement, derrière, on se demande s'il n'y a pas une espèce de dépendance, et il va falloir rendre aussi un peu l'appareil. Donc oui, pour moi, ça me pose un vrai problème. 75 000 euros de cadeaux, c'est pas anodin. Que ce soit la France ou pas qui les ait payés, c'est quand même des cadeaux qui sont offerts, que la personne, donc Dominique de Villepin, a reçu tranquillement et bien gracieusement et qui se les ait gardés, qu'après alors, ils nous disent qu'ils savaient pas d'où ça venait. Bon.
Je vais même aller plus loin, après avoir défendu Dominique de Villepin, je vais même défendre, je pense que je serai le seul en France, Monsieur Bourgi. Alors on dit, je pense que le terme est exact,
qu'on avait reçu ici pour son petit livre de souvenirs dans lequel il racontait ses voyages, les mallettes, les intermédiaires. Il l'avait d'ailleurs évoqué, tous ses allers-retours dans différents ministères.
Comme sulfureux. Oui. Mais il a peut-être aussi rendu des services à la France, Monsieur Bourgi. Ah bah, voilà, là on est. Aussi, les gens se mêlent d'affaires qu'ils ne connaissent pas, l'affaire, la politique africaine, les liens entre la France et l'Afrique. C'est complexe. Voilà, enfin, et c'est pas, encore une fois, c'est pas l'argent des gens, donc.
Bon. Oui, mais bon, même quand on accepte sans rien demander derrière, on sait que t'es redevable à un moment ou à un autre. Donc c'est là où il y a le bas blesse, c'est là où il y a un véritable problème.
Oui, et bah, prouve-moi que Dominique de Villepin,
tu te sens un peu redevable de choses.
Alors prouve-moi que Dominique de Villepin aurait rendu des services illégaux à Robert Bourgi en échange de ses statuettes.
Tu sais, là, c'est juste le début d'iceberg. Alors,
on peut aller, ça peut aller en justice, là, on peut ouvrir un dossier. Comment ça se passe? Qui décide de regarder à ce moment-là si c'est légal ou pas? S'il y a matière à poursuivre,
un signalement qui est fait avec l'article 40 au parquet. Mmh. Ensuite, il y a une enquête pour savoir véritablement si derrière, il y a eu quelque chose qui a été rendu ou non, je veux dire, en service. Et après, voilà, ça se passe comme ça.
Alors, dans ces cas-là, il peut y avoir une audition de Dominique de Villepin.
Il peut y avoir une audition s'il y a assez d'éléments pour pouvoir justifier
cette audition. Robert, si tu nous écoutes, j'adore l'art africain. Et je t'ai défendu.
Ah, alors, tu es plutôt statuette, tu es plutôt tableau.
Pas statuette aussi, j'aime
masque,
bien. Masque ou statuette.
Moi, je suis quand même surpris que.
Un amateur d'art africain.
Je suis quand même surpris que le nom de Jean-Loup ne soit jamais sorti dans l'affaire Dumas, Christine de Viejoncourt. Je suis surpris parce que je vois que Jean-Loup est un petit peu sur le dossier quand même, hein.
Ah, je suis dans toutes les affaires africaines.
On va vous donner.
1970.
Merci Anaïs. On va vous donner la suite des réjouissances d'ici midi dans les GG, dans les grandes gueules. Dans un instant, Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, le secrétaire général de Renaissance qui viendra avec nous parler de ce 1er mai. C'est lui qui va ouvrir le dossier du 1er mai. C'est peut-être contre lui d'ailleurs que partie des syndicats va défiler aujourd'hui. Gabriel Attal, candidat à l'élection présidentielle, candidat potentiel, virtuel, c'est pas encore officiellement déclaré. Quel est son programme? On en parlera avec lui. Et puis on reviendra aussi à 11h-20 sur cette histoire de hackers, vous savez, de l'ANTS, l'Agence Française Numérique. On se disait, ce sont des hackers russes planqués quelque part.
C'est toujours les Russes.
C'est un gosse de 15 ans qui a hacké. Un gosse de 15 ans.
Mado.
Et même pas russe.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.